Lucien Guitry, vu par Guitry, Sacha.
D'un acteur qui n'est plus, on a tout dit quand on a dit de lui qu'il était admirable. On ne peut pas s'étendre longuement sur sa façon de jouer, on ne peut que donner son opinion sur lui. On ne peut que jurer qu'il avait du talent sans pouvoir en fournir d'irréfutables preuves. On ne peut pas raconter les créations d'un grand acteur comme on peut raconter l'œuvre d'un écrivain, comme on peut raconter une pièce, un roman. Et quand on s'applique à analyser le jeu d'un grand acteur, on court souvent le risque d'en donner une bien piètre idée. Un jour, bientôt d'ailleurs, car les générations se succèdent vite, on demandera comment jouait Lucien Guitry. Aux acteurs qu'ils demanderont, on répondra « Lisez les pièces qu'on faisait pour lui et peut-être comprendrez-vous quel acteur il était. » Mais aux autres, à ceux qui ne seront pas du métier, comment leur expliquera-t-on ce qu'il fut sur la scène ? Ses photographies, certes, sont éloquentes et n'a-t-on pas fait 100 articles sur lui qui le dépeignent bien ? Sans doute. Cependant, je voudrais en dire moi-même quelques mots. Quelques mots à bâton rompu pour suivre son conseil, car il a écrit ceci « On ne peut parler de théâtre que comme on parle d'amour à bâton rompu. » Il possédait toutes les vertus du comédien dramatique. Il était grand, il était beau, sa voix était généreuse et rien ne rompait l'harmonie de toute sa personne physique. Mais ce qui surpassait tous ses dons merveilleux, c'était son regard, ce merveilleux regard qui ne trahissait jamais sa pensée, qui n'en disait ni trop ni trop peu, et qui lui permettait d'exprimer avec une telle clarté, une telle précision, les sentiments qu'il feignait d'éprouver. Oui, avec tellement de clarté qu'il n'eut jamais recours à ces froncements de sourcils, crispations de bouche, dilatations de narines et autres grimaces dont la plupart des comédiens font encore un abusif emploi. Il parlait souvent du magnétisme au théâtre, il pouvait en parler. Dès son entrée en scène, il s'établissait entre le public et lui un invisible lien, une évidente communication dont son regard faisait les frais et que la chute du rideau ne parvenait pas toujours à rompre. Et cependant, Lucien Guitry, par pudeur, évitait autant qu'il était possible de rencontrer les yeux de ceux qui de la salle l'écoutaient. Mais s'il fuyait le regard du public, voulant ignorer sa présence, du moins recherchait-il toujours les yeux de ceux qui se trouvaient en scène avec lui. Là, de tout près, son œil était prodigieux. Il en troubla plus d'un parmi ses camarades. Et l'admiration particulière émue que lui voue ceux qui furent ses partenaires est due à ce regard, il m'est impossible d'en douter. Je dis particulière car elle est faite aussi de gratitude, cette admiration. L'œil de Lucien Guitry avait en effet une façon, si j'ose dire, d'écouter qui ne permettait pas à l'interlocuteur d'abandonner un seul instant son personnage. Si tel acteur jouait près de lui un homme véreux, cet œil toujours présent semblait lui dire « Tu es une crapule, tu vois que j'y pense, donc ne l'oublie pas ». Le regard de Lucien Guitry rendait meilleur encore ses camarades en ne tolérant pas de leur part la moindre distraction de ces distractions d'un millième de seconde qui sont néfastes au personnage que l'on joue. En vérité, Lucien Guitry ne jouait pas sur le plan ordinaire, il jouait en premier plan. J'emploie cette expression selon le sens qu'on lui donne en cinématographie. Prendre en premier plan, c'est rapprocher tout à coup l'appareil du sujet. Eh bien, voilà, c'était ce qui se passait pour Lucien Guitry. Et c'était l'attention du public qui se portait en avant. C'est ce qui lui permettait à lui de concentrer toute son expression dans ses yeux sans recourir au jeu de physionomie. Ces deux volontés, la sienne et celle de son auditoire, avaient supprimé la distance qui les séparait. Je ne saurais trop parler de sa pudeur en scène aussi bien qu'à la ville. Elle était constante, innée, et sa crainte du ridicule pareillement. Il lui fallait faire un effort pour se livrer complètement. Et c'était toujours avec appréhension qu'il jouait certains passages de ses rôles, quand ceux-ci côtoyaient le lyrisme ou l'invraisemblance, ou bien quand il l'obligeait à des attitudes, à des actes, à des éclats vocaux dont il ne reconnaissait pas, en l'occurrence, la nécessité. Il aimait à rester toujours maître de lui, et quand son personnage le contraignait à faire plus qu'il n'eût fait lui-même en pareille circonstance, il en éprouvait une sorte de malaise, car il n'ignorait pas qu'une certaine limite étant dépassée, l'acteur devient génial ou devient ridicule. Il se priva souvent d'être génial dans la crainte où il était de paraître ridicule. Il n'avait pas de procédé, il n'avait pas de truc, de ces trucs infaillibles que les plus grands acteurs appellent à leur secours quand ils sont fatigués, quand ils sentent la nécessité de se faire applaudir pour faciliter l'enchaînement de deux scènes, quand ils veulent dégeler un public réfractaire, enfin quand ils ont envie de chauffer la fin d'un acte pour en doubler le nombre des rappels. Non, il n'avait pas de ces trucs-là. Qu'on me pardonne le mot truc, il n'est pas élégant, mais il dit bien ce qu'il veut dire.